Bonjour à tous. Merci à Esther qui est à l'orgue aujourd'hui. Je voulais juste qu'on accueille fraternellement la consœur d'une chapelle royale, hein, la paroisse de la chapelle royale à Bruxelles. Vous savez que l'oratoire est aussi une chapelle royale. Et donc c'est Laurence Flachon qui va présider ce culte aujourd'hui. Un grand, grand merci à toi et à tout à l'heure.
Merci. Ma sœur, mon frère, mon ami, à toi qui es venu ce matin ou qui nous écoute au loin, voici la parole qui se déploie comme une source inépuisable. La grâce de Dieu est offerte à tous, sans condition, sans mesure, sans fin. Elle n'appartient ni aux forts, ni aux faibles, ni au sage, ni à l'arrogant, ni à l'ignorant, mais se donne librement. Elle est l'écho d'une parole ancienne, une présence qui ne se lasse pas d'aimer, un appel qui ne s'éteint jamais et se déploie dans l'infinie création du Père, l'amical compagnonnage du Fils, le souffle stimulant de l'Esprit. Ici, nul n'est exclu, car en Dieu, tout être est bienvenu et reconnu. Ici, nul n'est méprisé, car la sagesse divine se réjouit de la diversité des chemins. Ici, nul n'est contraint, car l'Esprit souffle où il veut et trace des sentiers de liberté. À toi qui doutes, sois accueilli. À toi qui cherches, sois entendu. À toi qui souffres, sois consolé. À toi qui te réjouis, sois béni. Que la sagesse nous éclaire sans nous enfermer, que l'intelligence nous guide sans nous aveugler, que la sobriété nous affine sans nous éteindre. Car le royaume de Dieu n'est pas un lieu clos, mais un espace ouvert, une table dressée pour tous, un pain rompu pour chacun, une joie offerte, humble et infini, où l'amour seul est loi. Bienvenue à chacune et chacun. Ouvrons ce culte avec le premier répond. Bénissons Dieu.
Choisis pour serviteur, levons nos mains dans sa maison pour bénir et louer son nom.
Prions. Louange à toi, Dieu éternel, de la glaise du néant tu nous dégages, Dieu de vie, des chaînes de la peur tu nous délivres, Dieu de liberté, hors du tumulte de nos désirs tu nous berces, Dieu de paix, dans les ténèbres de nos doutes tu nous éclaires, Dieu de vérité, au naufrage de nos illusions tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Amen. Et nous chantons le psaume 92, les strophes 1, 2 et 3.
chose belle de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient à naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Comme l'ivraie des champs, et si des arrogants les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soit des
écoutons ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il nous donne la force de faire. Donnez-vous pour tâche de découvrir ce pourquoi vous êtes fait, et alors consacrez-vous avec passion à le faire. C'est la largeur de la vie. Reconnaissez que l'humanité est une et solidaire. Restez fidèles avec constance et persévérance dans l'entraide. C'est la longueur de la vie. Mais n'oubliez jamais qu'il y a un commandement plus grand encore. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la hauteur de la vie. Plaçons-nous avec lucidité devant Dieu dans la prière. Dieu de lumière et de vérité, devant toi nous déposons nos silences et nos distractions, nos choix précipités et nos oublis involontaires, non pas pour nous accabler, mais pour nous éveiller. Trop souvent, nous avons laissé l'abondance nous endormir, confondant l'aisance avec la paix, l'accumulation avec la bénédiction, oubliant que la richesse peut aussi être un voile qui nous sépare de la joie simple du partage. Trop souvent, nous avons laissé le bruit du monde nous disperser, et nos peurs ériger des murs d'indifférence, délaissant celles et ceux qui attendaient un regard, un mot, une main tendue, comme si l'amour pouvait attendre un moment plus opportun. Dieu de miséricorde, toi qui ne nous enferme pas dans nos erreurs, mais nous ouvre un avenir, donne-nous d'accueillir ce jour comme un recommencement, d'aimer sans compter, d'écouter sans fuir, et de marcher humblement, guidé par ta lumière. Amen. Je vous invite à vous lever. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous pouvons lire cette parole. J'ai effacé ta faute comme la lumière gagne sur la nuit épaisse, et j'ai effacé le mal que tu as fait comme le vent chasse un nuage. Tu peux revenir à moi sans crainte, car je t'aime dès maintenant. Et pour toujours. Dieu est plus grand que nos errances, plus vaste que nos peurs, plus fidèle que nos hésitations. Sa grâce est déjà là, offerte sans réserve, non comme un oubli facile, mais comme une invitation à vivre autrement. Que ce pardon nous relève, qu'il nous rende plus lucide et plus doux, plus juste et plus vivant. Chantons notre reconnaissance. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. De lui je reçois mon nom et l'appel à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ pour le monde, une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle, je reçois, avec mes sœurs et mes frères de baptême, l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Amen.
Grand.
La première lecture de ce matin se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, les versets 13 à 20. Heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et ce qu'elle rapporte vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les coraux, et rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur. Elle aide l'être humain à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Ses voies sont belles, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux. C'est par la sagesse que le Seigneur fonde la terre. C'est par l'intelligence qu'il installe le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Et le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignage contre quelqu'un, tu ne feras de tort à personne, tu respecteras ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « J'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit. Et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. En réponse à cette parole, nous chantons « J'ai soif de ta présence ». 400. Les strophes 1 et 3. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte. Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé, qui ne s'arrête pas à la surface des choses, à l'image que nous avons des autres, ni au souci de notre propre image. Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, ouverte, aventureuse, capable de replacer toute chose dans un contexte plus large, sans esprit de système, sans désir de puissance. Donne-nous la grâce d'une parole libre, toujours respectueuse des autres. Donne-nous d'offrir aux autres une présence qui délivre. Amen. La sobriété peut-elle être heureuse? Curieuse question à l'entame d'une prédication protestante. Ne sommes-nous pas la confession chrétienne dont Max Weber a théorisé la propension à l'ascèse intramondaine? Le protestantisme, particulièrement dans ses versions calvinistes et puritaines, construit son éthique en affinité avec les anciennes règles monastiques, prie et travaille, mais en change totalement le cadre et l'orientation. La discipline des passions à travers le mariage et la vie domestique au lieu du célibat, l'importance de la sobriété dans la vie et la gestion des biens matériels, orienté vers l'épargne et l'investissement au lieu de la pauvreté, la régulation des conduites laissée à la conscience et à la responsabilité personnelle des individus devant Dieu et non soumise à une autorité ecclésiale à qui l'on promet un vœu d'obéissance. Ce qui ne manque pas de piquant, c'est que l'éthique du travail issu du calvinisme, contribue qualitativement à la formation de l'esprit du capitalisme et quantitativement à son expansion dans le monde, selon la thèse connue de Max Weber. Bien que stimulante, la thèse de Weber a été âprement discutée et n'est pas l'objet de cette prédication. Retenons une sobriété et une rigueur dans l'usage des biens de ce monde qui ont fait les délices des caricaturistes. Un dessin du professeur d'Ancien Testament, Albert de Purie, illustrait ce propos. Un pasteur en chair, mais pas du tout bien en chair, joignait ses deux mains d'un air sévère pour déclarer sentencieusement « En résumé, tout est possible tant que cela ne fait pas plaisir. » Alors, la sobriété peut-elle être heureuse? Curieuse question tout de même. Alors que les espèces vivantes, les ressources naturelles, le climat sont victimes de nos comportements prédateurs et de nos excès de consommation. Même si l'on n'est pas un chantre de la décroissance, il est difficile de ne pas prendre conscience de la nécessité d'un rapport différent au vivant et d'un changement de nos habitudes personnelles comme de nos systèmes de production. Cette notion de sobriété est ancienne. Les philosophes de l'Antiquité la rapprochaient de celle de tempérance pour évoquer la maîtrise des désirs et des plaisirs afin d'assurer un ordre social harmonieux. Les défis environnementaux l'ont remise au goût du jour et des livres tels celui de Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, ont contribué à la populariser. L'auteur plaidait pour une modération de nos désirs, une sobriété libératrice et librement consentie, afin de rompre avec un système aliénant dans lequel l'être humain se perdait lui-même en rompant le contact avec la nature. Alors bien sûr, ces préoccupations ne sont pas celles de l'époque de Jésus. Pourtant, hier comme aujourd'hui, le moins est rarement assimilé au mieux. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais le jeune homme, à ces mots, s'assombrit et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il semblerait que la sobriété ne soit pas toujours nécessairement heureuse. Mais peut-être m'objecterez-vous qu'il ne s'agit pas là de sobriété au sens d'un usage modéré des choses, mais de radicalité. Tout vendre, tout donner. Jésus exagère, comme souvent. Jésus va jusqu'à dire que ce qui manque à ce jeune homme, c'est l'expérience du manque absolu et celle corollaire, c'est important, du don aux plus démunis. Ce qui te manque, c'est de manquer. Mais qui veut manquer? Et pourquoi donc s'engager dans une telle démarche? Faudrait-il donc renoncer à toute possession pour devenir disciple de Jésus-Christ? C'est un choix possible. Les ascètes, les ordres mendiants, certaines figures importantes du christianisme témoignent de cette attitude radicale. C'est un choix possible, mais pas obligatoire. Le Nouveau Testament souligne l'importance de la collecte et du bénévolat comme moyen pour les croyants de faire l'expérience d'une communauté solidaire et vivant d'un Dieu de grâce qui fonde la générosité de chacun. Notre rapport à l'argent parle de notre relation aux autres et à Dieu. Quel effet produisent sur nous nos possessions, nos richesses? Sont-elles facteurs de liberté, créatrices de relations, ou au contraire, obstacles, enfermements? Certaines puissances exercent sur nous une emprise. L'argent en est une pour cet homme. Il n'est certainement pas le seul. Et ce n'est pas la seule puissance qui exerce une emprise sur lui. Car c'est aussi à un idéal de perfection que Jésus l'invite à renoncer. Cet homme vient vers lui avec empressement et une question intéressante. Bon maître, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il y a dans ce propos une contradiction porteuse de sens entre devoir faire et hériter. Un héritage se reçoit. Il suffit d'être un parent de celui ou celle qui donne ou le destinataire choisi par un autre. Mais l'homme veut faire comme il a fait tout au long de sa vie, fidèle à l'enseignement qu'il a reçu. Il a mis en pratique les commandements. Cette mise en pratique de la loi en vue de garantir son salut le laisse insatisfait. Il sent confusément que quelque chose lui échappe. Il n'a pas la certitude que tout ce faire lui donnera la vie éternelle. Il est en quête d'une assurance pour cette vie-là, à présent qu'il a sécurisé sa vie sur terre avec des richesses qui le protègent, pense-t-il, de ses vulnérabilités et des accidents de la vie. La carapace de cet homme est épaisse. Elle l'enferme plus qu'elle ne le protège. Emmuré dans sa volonté de maîtrise, il ne voit pas le lien entre son accumulation des biens et sa peur de l'avenir. La richesse, l'agitation, la volonté de faire ne sont que des subterfuges, des échappatoires pour éviter d'affronter sa propre finitude. Et surtout, cette logique de l'avoir fait obstacle. Elle fait obstacle à la relation avec Jésus, mais aussi à celle avec les autres. Luciano Manicaldi, moine de la communauté écuménique de Bose, rappelle qu'entre le XIIe et le XIVe siècle, le vocable paupère, pauvre, ne s'opposait pas à dives, riche, mais à potens, puissant. Être pauvre ou être puissant. Le peu devient ainsi renoncement au pouvoir sur les autres. Et donc, possibilité d'une relation de reconnaissance et de respect mutuel. Pertinence et actualité de ce propos lorsque, à contrario, on observe le pouvoir écrasant qu'exerce l'homme le plus riche du monde sur une démocratie qui, outre-Atlantique, vacille sous les coups de son hubris destructeur. Et l'hubris, justement, ce n'est pas seulement la démesure. Les Grecs liaient cette notion à un comportement qui écrase, qui piétine, et qu'on peut associer à des actes transgressifs, violents. Accepter le peu, c'est reconnaître sa propre incomplétude, c'est consentir à dépendre en partie des autres. Mais c'est aussi se réjouir de ce qui est là, car le peu n'est pas le rien, le valoriser et en redécouvrir la beauté. Le risque que court l'homme de l'Évangile est de se définir par ce qu'il possède, ce que Jésus évite soigneusement de faire. Ayant fixé son regard sur lui, Jésus l'aima. Lorsque Jésus regarde dans l'Évangile, il voit et il fait voir. la vérité de l'être, la bonté de Dieu. Ce regard est encouragement à accueillir sa propre vérité et à consentir à la relation. L'évangile, selon Marc, ne dit pas « Jésus loua son obéissance aux commandements et l'aima ». Non, elle dit « Ayant fixé son regard sur lui, Jésus l'aima ». Sans condition, tel qu'il est, en vérité, distinct de ses nombreuses richesses accumulées. Va, vends et donne, viens et suis-moi. Quel programme ! Va, comme il avait été dit à Abraham, le début de la foi, c'est de faire confiance, de se lever et de sortir de nos habitudes confortables. Vends et donne, donc allège-toi, libère-toi de tout ce qui t'encombre, de ce qui fait obstacle à la vie, à la relation. Fais de la place en toi et autour de toi pour pouvoir accueillir Dieu dans ta vie. Alors, le temps, le souffle et l'espace te seront donnés pour me suivre. Jésus n'invite pas à un idéal de perfection, mais à un changement de logique. Apprendre à recevoir, se mettre dans la position de celui qui manque, qui a soif de l'autre, Dieu, le prochain, au lieu de chercher sans cesse à remplir, à dominer ou à conquérir. Ce dépouillement n'est pas une punition ou une mortification. Il vise à faire tomber certaines défenses, certaines peurs ou fausses assurances. Il vise à nous libérer de ce qui nous entrave ou nous distrait de l'essentiel. Le peu, alors, n'est pas amoindrissement, mais dilatation de l'être, ouverture à la rencontre, attention à l'autre. Pour Max Scheler, l'ascèse est la tâche qui incombe à l'être humain pour s'humaniser, pour cultiver sa richesse irremplaçable qu'est sa propre unicité, son visage, pour recréer une culture de l'être, pour vivre la compassion et le partage. Alors, oui, la sobriété peut être heureuse. Les récits bibliques sont de ceux qui nous ouvrent à une conception du bonheur différente d'une somme de plaisir ou de biens à consommer. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans l'enseignement de Dieu, la Torah, et la récite jour et nuit, dit le psaume 1. Heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et ce qu'elle rapporte vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les coraux, et rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur, nous rappelle le passage du livre des Proverbes entendu tout à l'heure. Il est important que la sobriété soit heureuse et même joyeuse. Car sinon, elle peut, elle aussi, être un exploit, un idéal de perfection à accomplir, plutôt qu'une ouverture à la relation, une possibilité de lâcher prise et de se décentrer de soi-même. Ce que Jésus offre à l'homme, c'est une véritable rencontre qui lui confère une nouvelle identité. Viens et suis-moi. Deviens disciple et témoigne à ton tour de l'appel de Dieu, l'appel du prochain. Témoigne, pardon, à ton tour que l'appel de Dieu, l'appel du prochain, sont plus forts que les inquiétudes dont témoignent tes possessions accumulées. L'homme n'est pas encore prêt, comme en témoigne sa tristesse. Il est encore possédé par ce qu'il possède. Mais la fin du récit est ouverte. Quel chemin cet homme fera-t-il ? Nul ne le sait. Mais la parole entendue et reçue est à l'œuvre. Elle est pure, cette parole, pour faire émerger qui nous sommes réellement. À l'image du travail du sculpteur qui ôte du bloc ce qui est de trop pour qu'apparaisse la statue, ce que Michel-Ange appelait la nobilis forma. La sobriété, le peu, n'a pas seulement à faire avec l'essentiel, avec la liberté, avec Dieu et le prochain, mais aussi avec la beauté. En cela, elle rejoint la sagesse, qui est non seulement précieuse, car elle contribue à une vie longue, mais dont les voies sont belles. Ce qui fait dire à sœur Myriam, diaconesse de Reuilly, « Il y a dans la beauté une protestation devant tous les non-sens. La beauté communique une grâce. Elle embellit et transfigure l'aujourd'hui. » Bonheur d'une liberté qui se dit dans la capacité de se détacher. Grâce d'une beauté qui proteste contre la laideur du trop-plein et de la prédation. Que cette sagesse irrigue la longueur de nos jours. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter dans le psautier français au numéro 84 « Dans ta maison, je suis heureux », les strophes 1 et 2. c'est le temps des annonces.
Grand merci au nom du Conseil presbytéral à toi, Laurence, sur cette prédication sur la sagesse, la sobriété. Alors tu sais que le salon de l'agriculture s'est ouvert hier, hein. Donc vous pouvez y aller, mais gardez en tête la prédication de Laurence. Vraiment un immense merci. Tu as permis à Béatrice Cléromazir, notre pasteur seule cette année, de souffler un peu. On la retrouve dimanche prochain, ici même pour présider ce culte. Et à la fin du culte, elle vous invitera à venir écouter Laurent Gagnebin, notre ami Laurent Gagnebin, théologien, qui a sorti son dernier ouvrage et sur la liberté de la foi. Il vient nous le présenter ici même, donc venez la semaine prochaine écouter prêcher Béatrice Cléromazir et ensuite échanger avec Laurent Gagnebin sur son dernier ouvrage qui est en vente à la librairie. Donc je vous conseille aussi de le lire en amont de la présentation parce que c'est toujours plus intéressant pour poser toutes les questions que vous souhaitez à Laurent dimanche prochain. Également, mardi, donc pas la semaine prochaine, pas cette semaine, mais la semaine suivante, hein, donc au retour des vacances scolaires, Béatrice Cléromazir reprend son mardi mensuel dans lequel vous pouvez la rejoindre pour un culte d'intercession avec Seine, également ensuite déjeuner avec elle et enchaîner sur un partage biblique sur cette année, sur les villes. Et le thème de cette année sera, de ce mardi, donc début mars, sera sur les eaux urbaines, qui est aussi un véritable sujet dans la Bible. Voilà, c'est le moment des offrandes, de l'offrande, donc soyons, allégez-vous, hein, vraiment, n'hésitez pas, hein, si donc on résume, allégez-vous avec joie, tiens, le don est toujours joyeux à l'Oratoire du Louvre, mais là vraiment, vous avez un boulevard pour vous alléger. Merci beaucoup, ne soyez pas sobre, merci infiniment, et encore merci à toi Laurence.
Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères, les sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître et de recevoir les signes de son amour, de sa mort et de sa résurrection, de sa promesse et de son royaume dans ce pain et ce vin. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit-Saint, afin qu'en ce pain et ce vin, nous ayons communion les uns avec les autres et que nous recevions chacun et tous ensemble la vie qui vient de Dieu. Il est bon de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Je vous invite à chanter « Par toi pour une fête » au numéro 205, les strophes 1 et 2. Le soir venu, Jésus se met à table avec les 12. Pendant qu'ils sont à table, Jésus prend du pain, il dit la bénédiction, il le rompt et le leur donne en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prend aussi la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donne et ils en boivent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Et il ajoute « En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Prions. Dieu de sagesse et de vie, en ce jour où nous nous rassemblons autour de la table du Christ pour faire mémoire de ses paroles, de ses gestes, de sa mort et de sa résurrection, nous tournons vers toi notre regard et notre espérance. Apprends-nous la sagesse, non celle qui enferme, mais celle qui éclaire, celle qui nous donne de discerner ce qui construit et ce qui disperse, celle qui nous rend humbles sans nous éteindre, celle qui sait que l'amour vaut plus que le pouvoir, que la vérité libère et que la paix est un chemin à cultiver chaque jour. Apprends-nous la fraternité, la sororité, non seulement celle des mots mais celle des gestes, celle qui sait écouter, accueillir et relever, celle qui fait de l'autre un visage à aimer et non une ombre à ignorer, celle qui nous garde de l'indifférence et du repli, celle qui nous ouvre à la joie du partage et à la confiance donnée. Apprends-nous la sobriété heureuse, non celle de la privation, mais celle de la liberté, celle qui nous détache du superflu pour nous attacher à l'essentiel, celle qui fait grandir en nous la gratitude plutôt que le manque, celle qui nous rappelle que la véritable richesse est dans les liens que nous tissons, dans le pain que nous rompons ensemble, dans l'amour qui circule et qui fait vivre. Seigneur, c'est toi qui nous rassemble et qui nous invite. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toute chose nouvelle dans nos cœurs pour que nous portions à notre tour cette nouveauté dans le monde. Et donne-nous de prier ensemble, d'une seule voix, avec tous ceux et toutes celles qui te cherchent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Christ nous a rejoints sur notre route, il chemine à nos côtés, c'est lui qui préside ce repas. Que nous soyons animés d'une foi profonde, rayonnant d'une espérance forte, ou touchés par l'épreuve, luttant dans le secret contre nous-mêmes, doutant, cherchant. Nous sommes tous et toutes invités. Venez, car tout est prêt. Je vous invite à faire un grand cercle. Si vous ne souhaitez pas prendre la communion, vous pouvez vous mettre dans le cercle et l'indiquer lorsque les personnes passent.
Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a été versée pour tous en signe de la nouvelle alliance de Dieu avec le monde.
Je vous invite à chanter « À toi la gloire ». Pour ta parole qui se fait pain, pour ta tendresse qui prend corps parmi nous, pour l'aujourd'hui de ta promesse et pour nos visages rassemblés, nous te rendons grâce, ô Dieu d'amour. Amen. Allez, fort, non de ce que vous possédez, mais de ce que vous donnez. La vraie abondance est dans l'amour tissé au fil des jours. Allez avec confiance. Le Christ vous précède sur la route et la sagesse danse au creux du monde, offerte à qui veut la recevoir. Que le Dieu qui était et qui vient, vous bénisse, qu'il vous affermisse dans l'espérance et vous garde dans sa paix. Amen. Et nous chantons. Je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici et de revoir certaines personnes que je connais et d'autres dont je fais la connaissance. C'est un plaisir et un privilège. Merci et je vous souhaite un excellent dimanche.